Bien mangé,
bienvenue. Et la dernière fois, donc, nous avons vu comment, pourquoi, disons, lire la Bible. Lire, comprendre, et puis essayer de rencontrer le Christ. On disait que la Bible n'est pas informative, mais performative. Ça veut dire que le but, c'est d'être transformé par la parole. Pas seulement d'apprendre des choses sur Jésus, mais d'être transformé par Jésus. Donc on lit, mais on essaye surtout à l'occasion de la lecture de rencontrer le Christ. C'est ça l'enjeu. Et c'est ça un peu la perspective de ce parcours biblique, c'est d'essayer de voir les clés qui nous sont données pour entrer dans la Bible de telle manière qu'on puisse vraiment rencontrer Jésus. Alors, la dernière fois, on a parlé de l'Ancien Testament et du Nouveau, en montrant que c'est un petit peu comme l'embryon par rapport à l'adulte, et que l'adulte éclaire la nature de l'embryon. Eh bien, il y a quelque chose comme ça dans la Bible. C'est embryonnaire, donc c'est moins facile à comprendre. Et puis Jésus dit « Je suis la lumière ». Et donc, il éclaire l'Ancien Testament. Et donc ça, c'est une première clé de lecture. Rappelez-vous, Abraham reçoit l'ordre de sacrifier son fils. Son fils lui dit « Où est l'agneau pour l'Holocauste ?» On ne comprend pas cette histoire. Et puis tout d'un coup, Jean-Baptiste dit « Voici l'agneau de Dieu ». Donc, ça fait sens. À partir de Jean-Baptiste qui désigne Jésus comme l'agneau, on comprend que la question d'Isaac, où est l'agneau, était celle-là. Qui va être l'agneau véritable qui va nous sauver? Alors, ce soir, on va regarder ce qu'on appelle le Pentateuque, c'est-à-dire les cinq premiers livres de la Bible. C'est un topo important parce qu'on entre dans l'aspect historique de la Bible. Et une des difficultés pour lire la Bible provient du fait qu'on ne connaît pas bien le contexte historique. Alors, vous avez des livres qui ne sont pas écrits à la même époque et qui sont regroupés ensemble. Par exemple, vous pouvez lire le livre du Coëlette, qu'on appelait avant l'Ecclésiaste, et puis vous le retrouvez dans le même groupe, si vous avez la Bible de Jérusalem, par exemple, c'est dans les livres de Sagesse, vous le retrouvez à côté du livre de Sagesse, de la Sagesse. Sans savoir qu'il y a 800 ans de différence entre les deux. Donc c'est un petit peu si vous lisiez sans le savoir Saint Thomas d'Aquin et Jean-Paul Sartre, sans voir qu'il y en a un qui est au Moyen-Âge et l'autre au XXe siècle. Vous lisez Saint Augustin et Descartes à côté, il vous manque le contexte historique et donc vous perdez beaucoup de relief. Alors c'est bon d'avoir un petit peu la trame historique. Ça peut être une bonne manière de lire la Bible, tiens. Je vous propose 12 livres qui vous donne en continu toute la trame historique. Moi, je ferais bien ça si j'avais... Peut-être je vous reprendrai le temps de la lire d'un bout à l'autre comme ça, mais de se recaler déjà en 12 livres toute la trame historique. Alors, je vous le fais en très bref. Je vous conseille de lire d'abord la Genèse, parce que c'est le premier, alors vous avez la création, et puis les premiers moments. Donc, vous avez la Genèse. Ça, c'est pour, le livre à pas... On va en parler ce soir, mais c'est vraiment le livre fondamental. Après, vous trouvez que le peuple est en Égypte, esclave en Égypte, et donc là, il faut lire l'Exode. Et puis, ils sont libérés d'Égypte, et là, ils vont passer du temps au désert. Et le grand livre du désert, on va le voir encore ce soir, c'est le livre des Nombres. Ensuite, ils entrent dans la terre promise, après le désert. Et là, c'est le livre de Josué qui vous raconte l'entrée du peuple dans la terre promise. Et qu'est-ce qu'ils vont faire dans la terre promise? Ils vont essayer de s'organiser. Ils vont essayer de voir qui peut être le chef. Ils vont avoir encore des problèmes avec les Philistins, avec tout un tas d'ennemis. Et là, c'est le livre des juges. Et puis, au bout d'un moment, ils ont assez d'avoir tout le temps un gouvernement politique un peu chaotique. Il y a un juge, puis un autre juge. Ils veulent un roi comme toutes les autres nations. Et à ce moment-là, si vous voulez voir l'apparition des rois, c'est la suite, eh bien... Il faut lire le premier livre de Samuel, avec l'apparition de Saül, le premier grand roi d'Israël, et puis David, Salomon, au deuxième livre de Samuel. Et puis là, au bout d'un moment, il y a l'explosion des 12 tribus, et vous vous retrouvez dans le premier livre des rois, par exemple. Après, le peuple va être déporté en Babylone, ça va être l'exil. Et là, il n'y a pas vraiment de livre sur cette période, sur l'exil. En revanche, on a des livres sur le retour de l'exil. Et là, je vous conseille de lire, par exemple, le livre d'Esdras. Ils reviennent de Babylone, ils reconstruisent le temple. C'est ce qu'on voit dans le livre d'Esdras. Et là, pendant 400 ans, il n'y a plus de prophètes. Et il faut attendre Jean-Baptiste. Et donc, vous ouvrez l'évangile de Matthieu, par exemple. Et là, vous avez tout de suite la généalogie de Jésus. Et vous entrez dans le Nouveau Testament. Après, qu'est-ce qui se passe? Jésus monte au ciel, l'ascension, et l'Église commence à se développer. Et ça, c'est ce qui vous est donné dans les Actes des Apôtres. Et ça va jusqu'à la fin des temps, et vous pouvez terminer avec l'Apocalypse. Comme ça, vous avez, vous voyez, en 12 livres, les 12 livres que je viens de mentionner, vous donnent une sorte d'histoire incroyable. Ça commence avec la création, ça se termine avec la fin du monde. De la Genèse à l'Apocalypse, en 12 livres, vous avez l'histoire de l'humanité à travers le peuple d'Israël. Donc ça, c'est une première grille de lecture. Ce soir, on va regarder les 5 premiers livres, le Pentateuch, et on va commencer par la Genèse. Vous vous souvenez, la dernière fois, on avait dit pour les rabbins, toute la Bible est dans la Genèse. Toute la Genèse est dans la première phrase, toute la première phrase est dans le premier mot, tout le premier mot est dans la première lettre, Beit, la maison. Toute la Bible, c'est pour revenir à la maison. Alors en particulier la Genèse. On va regarder la Genèse, en grec Genesis, alors c'est pas un groupe de rock à l'époque, hein, ça veut dire les origines. La Genèse, c'est l'origine. Le mot généalogie vient de là. Hein. Généalogie, Genèse, c'est l'origine de ma famille, d'où je viens. Donc la Genèse va répondre à cette question de l'origine déjà, d'où je viens. Alors, dans la Genèse, il y a 11 premiers chapitres qui sont absolument importants à connaître. Et là, vous pouvez toujours y revenir. Les 11 premiers chapitres de la Genèse sont la maquette. Alors ça, je vous invite vraiment à les regarder de très près, à les relire souvent, avec les 4 mythes fondateurs. Le mythe du péché originel. Ensuite, le premier meurtre, la première mort qui nous est révélée. Caïn, tout son frère Abel. Ensuite, vous avez le déluge. Et puis la tour de Babel. 4 grands mythes. Et vous voyez ici qu'on est dans le mythe, on n'est pas encore dans l'histoire. Hein. On est dans quelque chose de préhistorique. On est dans une sorte de mythologie révélée par Dieu. C'est pas parce que c'est mythique que c'est pas, ça ne dit rien. Mais il ne faut pas le prendre au sens littéral. Vous n'avez pas un petit serpent qui se met à parler avec Madame Ève, etc. Mais évidemment, ce n'est pas au sens littéral qu'il faut le comprendre. La création ne s'est pas faite en 6 jours, en 7 jours. Au sens littéral, ce serait absurde de dire ça aujourd'hui. En revanche, ça nous dit quelque chose. Ça nous dit quelque chose au plan symbolique, au plan poétique, et il y a une véritable révélation de Dieu ici pour qu'on comprenne quelque chose. Alors on va recommencer par ce qui me semble être pour moi la clé principale, pour ne pas dire une des clés, disons, mais ce qu'on appelle le proto-évangile. Ça veut dire l'évangile avant l'évangile. C'est Genèse, chapitre 3, verset 15. On va prendre le chapitre 3. C'est le chapitre sur le péché originel. Bon, vous vous souvenez de cette histoire, hein. Dieu a dit à Ève, et Adam et Ève, donc à Adam, d'ailleurs ensuite qu'il a sans doute répété à Ève, vous ne mangerez pas de l'arbre qui se tient au milieu du jardin, etc. Vous pouvez manger de tout, mais pas de celui-là. Puis il y a ce discours, ce dialogue entre le serpent et la femme, le serpent qui commence à lui dire en sifflotant « Ah, c'est vrai, vous ne pouvez pas manger tous les arbres ?» Il sait très bien qu'ils peuvent manger tous les arbres, il les voit tous les jours manger tous les arbres. Mais ils n'en mangent pas, ils s'interrogent, ils ne savent pas pourquoi. Donc voilà, elle commence à entrer en dialogue avec lui, puis il lui dit « Mais pas du tout, Dieu vous ment, il est jaloux, grosso modo, mange et vos yeux s'ouvriront, vous serez comme des dieux en fait. » Et Dieu commence à devenir le rival de l'être humain. Et puis alors, il y a ce moment-là, Dieu lui avait dit, si tu manges, tu meurs. Problème, il a mangé, ses yeux sont ouverts, mais il n'est pas plus heureux après qu'avant. Et il commence à se dire, oups, on a fait une énorme boulette. Alors Dieu, le soir, il arrive, lui aussi en sifflotant, ça c'est pas dans le texte, ils entendirent la voix du Seigneur Dieu qui se promener dans le jardin à la brise du jour. L'homme et sa femme allèrent se cacher au regard du Seigneur Dieu parmi les arbres du jardin. Le Seigneur Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu donc ?» Ah, bonne question, hein. Qu'est-ce qu'il veut dire « Où es-tu donc ?» On peut le prendre à plein de niveaux. Ça veut dire littéralement, ben, il ne voit plus Adam, il dit « T'es où ?» Mais vous pouvez aussi de dire, mais où j'en suis aujourd'hui? Petit examen de conscience que Dieu fait à Adam. Tu es où? Où est-ce que tu es passé? Je te reconnais plus, je ne te retrouve plus. Ça peut être une... Vous voyez, le texte ici peut vous interroger sur votre propre vie. Vous dites, mais j'en suis où? Où est-ce que je suis aujourd'hui? Spirituellement parlant. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai pris peur parce que je suis nu et je me suis caché. Apparition de la peur de Dieu. Avant, l'homme et Dieu étaient des amis, ils parlaient comme un ami parle à son ami. Et voilà que tout d'un coup, quelque chose a grippé. Et il se retrouve au fond dans la peur de Dieu, Adam. Le Seigneur reprit, « Qui donc t'a dit que tu étais nu? Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu m'as donnée, c'est elle. » courageux, hein, évidemment. Moi, non, mais elle. Hein. Mais vous voyez, en plus, c'est très finaud et c'est très malin, au sens du malin. « La femme que tu m'as donnée. » Il y a une double accusation ici. C'est la femme, puis je te rappelle que c'est toi qui l'as mis à mes côtés. Moi, je n'avais rien demandé. Hein. Donc, ça nous rappelle un truc, c'est qu'on accuse les autres, on accuse Dieu lui-même. On a beaucoup de mal à reconnaître, oui, je suis responsable. Qu'as-tu fait là? Dieu dit à la femme. La femme répondit, le serpent m'a trompé. Et même réflexe. Et j'ai mangé. Alors, le Seigneur Dieu dit au serpent, qui lui a vu personne vers qui se retourner, donc... parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les animaux et toutes les bêtes des champs, tu ramperas sur le ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Et voilà le verset 15. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira la tête et toi tu lui meurtriras le talon. On va réfléchir sur ce verset qui, à mon avis, est absolument essentiel pour comprendre toute la Bible. Il est en train de dire à Ève, tu vas avoir une descendance. Donc déjà, c'est sympa pour Adam et Ève, ça veut dire qu'on ne va pas mourir tout de suite. Déjà, on va avoir une descendance. Ouf, le coup n'est pas passé loin. Donc pour eux, c'est alléluia. Hein. Ils évitent la mort. Ils savaient qu'ils allaient mourir, mais ils pensaient que c'était tout de suite. Non, non, tu vas avoir une descendance. C'est pour ça que Adam va l'appeler justement la mère des vivants. Ève. Et après, il dit au serpent, et toi aussi, tu vas avoir une descendance. Oh, c'est bizarre. Le serpent a une descendance. Le diable a une descendance. Et il y aura une hostilité entre la descendance de la femme, qui ultimement sera Marie, et la descendance de la femme, ça sera Jésus, et la descendance du démon. Comme s'il y avait tout d'un coup une double ligne. Chacun vont engendrer d'autres personnes. Adam et Ève vont engendrer Caïn, Abel, etc., qui vont engendrer ainsi de suite, d'où l'importance des généalogies dans la Bible, pour arriver finalement à Jésus. Mais le démon aussi. C'est très curieux, ça. Les anges n'ont pas de fécondité, normalement. Mais à travers l'homme, le démon va réussir à être fécond, d'une certaine façon. Il va y avoir un pharaon, il va y avoir Nabuchodonosor, il va y avoir Hérode, il y aura un jour Hitler, il y aura un jour... Ouais, des gens qui, en fait, clairement, sont dans la lignée du serpent. Et il va y avoir le grand conflit à un moment donné entre Jésus et son adversaire. Donc là, on a... Et alors, qu'est-ce qu'il nous est dit? Il te meurtrira la tête et toi, tu lui meurtriras le talon. La descendance de la femme meurtrira la tête du serpent et toi, tu lui meurtriras le talon. Ça veut dire quoi? Le talon, c'est la partie la plus basse du corps. C'est par là qu'on est dans la poussière et qu'on se souvient qu'on appartient à la poussière. Donc c'est le symbole de l'homme dans sa mortalité, le talon. La tête, c'est l'orgueil, hein. C'est ce qui domine. Il va t'écraser la tête, ça veut dire il va te vaincre. Mais toi, tu te l'atteindras au talon, ça veut dire tu vas le faire mourir. Donc ici, c'est déjà le mystère de la croix. À la croix, Jésus est mort, mais par sa mort, il a vaincu le démon. Donc on a déjà dans un verset, vous voyez que c'est très embryonnaire, hein, si on n'a pas la croix, on ne comprend pas ce verset. On le décode à partir du mystère de la croix. On a ici dans un seul verset l'incarnation et la rédemption. La femme, Marie, va mettre un enfant au monde, incarnation, et cet enfant un jour va être tué sur la croix, mais par sa mort, il va sauver l'humanité. Il va vaincre le démon. Donc on a ici ce qu'on appelle le proto-évangile, l'évangile avant l'évangile, le premier évangile. C'est la première promesse de Dieu et la source de toutes les autres promesses ensuite. Toute la Bible ensuite attend celui qui est promis ici, celui qui doit enfin nous libérer du démon. Dès Noël, on comprend que le grand combat est arrivé. Jésus vient de naître, les anges dans nos campagnes chantent Alléluia, Gloria, tout ça c'est super. Sauf que tout de suite après, eh bien Hérode est jaloux, Hérode a peur. C'est comme si le démon entrait dans le cœur d'Hérode, et tout de suite il veut tuer l'enfant. Ça commence dès Noël. Dès Noël, il y a le massacre des saints innocents, Hérode cherche à tuer l'enfant. Le combat entre le démon et Jésus commence. Mais entre Adam et Jésus, il va y avoir des générations et des générations, d'où l'importance des généalogies dans la Bible. Alors quand vous lisez ça, c'est fastidieux. Un tel engendra un tel, qui engendra un tel, qui engendra un tel. Et si vous avez la clé de lecture, si vous savez que ce qui est en jeu, c'est la semence de la femme contre la semence du serpent, toutes les généalogies deviennent intéressantes. Vous comprenez que c'est cette histoire qui est en train d'avancer. Et vous ouvrez le Nouveau Testament, et ça commence comme ça, Évangile de Matthieu, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères, etc., etc. Pour bien enraciner Jésus dans toute une généalogie qui va remonter jusqu'à Abraham et chez Saint-Luc jusqu'à Adam. Vous voyez, donc en fait, là, vous avez vraiment le fil conducteur. Alors, regardons Abraham d'abord. Dans la Genèse, une fois que vous avez passé les 11 premiers chapitres qui sont vraiment une maquette, vous commencez avec l'histoire d'Abraham, ensuite il y aura l'histoire de son fils Jacob, ensuite de son fils Isaac, ensuite l'histoire de son fils Jacob, et puis finalement un des fils de Jacob, Joseph. Vous avez 4 grandes histoires dans la suite de la Genèse. Abraham, Isaac, Jacob, Joseph. Eh bien Dieu dit à Abraham, au chapitre 12 de la Genèse, « Quitte ton pays, ta parenté, la maison de ton père, pour le pays que je t'indique. » Ça commence par une séparation. Alors en hébreu, il y a un mot ici qu'on ne sait pas bien traduire, c'est une expression qui n'apparaît qu'ici dans la Bible, l'erlera, ou l'erler, ça semble un doublé, et certains traduisent « va vers toi-même ». Je ne sais pas si c'est tout à fait légitime au point de vue de l'hébreu de traduire comme ça, mais l'idée qu'au point de vue spirituel, même psychologique, il faut que j'aille vers moi-même. Je vais m'intérioriser pour savoir finalement qui je suis. « Je ferai de toi un grand peuple, je te bénirai, je magnifierai ton nom, sois une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je réprouverai ceux qui te maudiront, par toi seront bénis tous les clans de la terre. » Donc il y a vraiment une bénédiction sur Abraham et sur sa génération. Sois une bénédiction pour le monde. Ça c'est un beau verset, hein, si chacun d'entre nous on pouvait le recevoir comme ça ce soir. Le Seigneur nous bénit et nous dit « sois une bénédiction pour le monde ». Alors on aura donc Abraham, Isaac, Jacob, les 12 tribus, parce que Jacob il a 12 enfants, ça va donner les 12 tribus d'Israël, qui vont être la structure d'Israël. Notez d'ailleurs, hein, Jésus choisit combien d'apôtres ? 12. C'est la continuation des 12 tribus d'Israël dans l'Église. C'est l'Israël de Dieu qui continue. Et donc on est toujours dans cette... On est toujours raccord avec l'origine. On est accordé à l'origine. Ça se continue. J'aime bien regarder les premières phrases et les dernières phrases des livres. C'est aussi un petit truc pour lire un livre. L'introduction et la conclusion. Dernière phrase de la Genèse, elle est pathétique. Joseph mourut à l'âge de 110 ans. On l'embauma et on le déposa dans un cercueil en Égypte. Comme c'est triste. Ça a commencé dans un jardin de délices, Gan Eden, le paradis d'Éden, le paradis de délices. Ça se termine dans un cercueil en Égypte. Voilà le résultat d'avoir croqué le fruit défendu, c'est-à-dire d'avoir désobéi à Dieu. On était appelé aux délices de l'Éden et ça se termine dans un cercueil en Égypte. Le cercueil, c'est le symbole de la mort. L'Égypte, c'est le symbole de l'esclavage. On a deux grands problèmes, on va mourir. Et on est esclave. On n'est pas libre. Et donc, la Genèse me laisse avec ce désir, mais qui va me sauver ? Où est l'agneau pour l'Holocauste ? Parce que la mort est uniquement, c'est la fin de tout, il n'y a rien derrière. Est-ce que quelqu'un pourra me sauver de la mort? Et entre-temps, avant même de mourir, est-ce que quelqu'un va me permettre d'être enfin un peu libre? Et donc la Genèse se termine avec, je crois, le besoin. La Genèse me fait comprendre que, étant donné qu'il y a eu péché, étant donné qu'il y a tout ça, étant donné qu'on est vrillé dès l'origine, nous sommes dans le besoin d'un sauveur. Quand vous lisez la Genèse, en fait, ça creuse en vous le besoin de quelqu'un qui va vous sortir de tout ce chaos. Alors, justement, Dieu va envoyer un bébé. Souvent, ça commence avec les bébés. Un petit bébé qui échappe au Pharaon, Moshe, Moïse, sauvé des eaux. Et là, on entre dans l'Exode. Deuxième livre de la Bible, du Pentateuque. À propos, hein, Pentateuque, ça vient de Pentateuques en grec, ça veut dire les cinq rouleaux. Parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas d'iPhone. Ils ne pouvaient pas avoir la Bible sur l'iPhone à l'époque. Donc ils avaient des grands rouleaux, des parchemins, etc. Ça a pris du temps. Hein. Il a fallu, déjà pour avoir un livre, pour avoir que la Bible soit sous forme de livre, ça a pris beaucoup de temps. Il y avait des moines copistes qui recopiaient comme ça les rouleaux pour en faire un petit peu des énormes volumes. Puis finalement, c'est avec Gutenberg, avec la naissance de l'imprimerie, qu'on a pu commencer à imprimer des livres et arriver aujourd'hui à avoir des bibles comme ça. L'Exode. À la fin de la Genèse, on nous dit qu'il y a une famille de 70 personnes à peu près. Vous ouvrez l'Exode, on vous dit qu'il y a 600 000 guerriers, sans compter les femmes et les enfants. Donc vous avez un peuple, au moins 2 millions. Au moins 2 millions de juifs qui sont en Égypte. Et le nouveau pharaon, sans doute Ramsès III, eh ben, il a un petit problème d'immigration quand même dans son pays. Ça fait beaucoup tout ça. Comment on protège la culture pharaonique? Comment on protège la culture égyptienne? Alors il prend des moyens un peu radicaux quand même. Il décide de tuer tous les bébés, tous les mâles. Et puis il y a un petit Moïse, il y a un petit bébé tellement beau que sa mère a dit non, c'est pas possible. Elle le met, vous savez, hein, dans une bannière, elle le met sur l'eau en disant j'espère que quelqu'un le prendra. Et puis voilà qu'en fait, c'est la fille de Pharaon qui allait se baigner et puis qui tout d'un coup voit, oh, c'est un petit hébreu, moi je l'adopte. Et donc c'est curieux, celui qui va être le chef d'Israël a grandi en Égypte. C'est un Égyptien, le gars. Dans toute sa culture, pendant 40 ans, il est de culture égyptienne. Et c'est lui que le Seigneur va aller chercher. C'est en Exode, je prends versets 7 et 8. Le Seigneur dit... J'ai vu la misère de mon peuple en Égypte et j'ai entendu. Je l'ai entendu crier sous les coups de ses chefs de corvée. Oui, je connais ses souffrances et je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers un bon et vaste pays, vers un pays ruisselant de lait et de miel, vers le lieu du Cananéen, du Hittite, de l'Amorite. Et maintenant, puisque le cri des fils d'Israël est venu jusqu'à moi, puisque j'ai vu le poids que les Égyptiens font peser sur eux, va maintenant, je t'envoie vers le Pharaon, fais sortir l'Égypte, mon peuple, d'Égypte, mon peuple, les fils d'Israël. Donc là, il dit à Moïse, tu vas aller voir Pharaon, qui veut sa mort depuis plusieurs années, et tu vas lui dire, let my people go. Parce qu'il parlait anglais, lui aussi. Et le thème de l'Exode, alors, vous voyez bien, c'est le thème de la libération. C'est... Comment, moi qui suis esclave, je peux devenir un homme libre? La Genèse, c'est le besoin de Dieu. L'Exode, c'est le besoin de libération. Moïse est encore une préfiguration de Jésus, bien sûr, le libérateur, celui qui nous libère du diable, du péché, de la culpabilité. Et bon, il ne suffit pas d'être libre, il faut être un peu éduqué aussi. Que je peux être libre et assez sauvage. Maintenant que Dieu a fait de moi un être à sa ressemblance, ou maintenant que Dieu est présent, comment je me comporte avec Dieu? Ben ça, c'est le livre de Lévitique qui va vous expliquer ça. Le peuple, maintenant, possède l'arche d'alliance. Donc, il possède la présence de Dieu. C'est un passage auquel je n'ai pas fait allusion, mais dans l'Exode, il y a un moment, Dieu dit, ben voilà, tu vas construire une arche d'alliance, et puis on mettra les tables de la loi dans l'arche de l'alliance, et partout où ils vont, ils trimballent l'arche d'alliance. C'est la présence de Dieu au milieu d'eux, symboliquement. Comment on se comporte en face de Dieu? Si Jésus arrivait là, on ferait comment? On se redresserait un petit peu. On fait comment? Il dit, hey, give me a hug. Ça serait comment en fait? Eh bien, c'est toute la liturgie qui commence. En présence de Dieu, ben, on va faire ça. Et là, ils reçoivent des commandements sur la manière de se comporter en face de Dieu. C'est le Lévitique, ce livre si difficile. Hein, généralement, c'est là que s'arrête notre bonne décision de lire la Bible en entier. Parce que c'est plein de préceptes qui ne nous parlent pas beaucoup. C'est même les mesures. On dit, tu construiras quelque chose de 3 coudées. C'est quoi la coudée? Ça dépend de quel coude, vous voyez. Donc, ce n'est pas nos mesures à nous, ce n'est pas notre époque, tout ça. Donc, on est un peu perdu. Puis on se dit, mais pourquoi le Seigneur dit ça? Alors, je crois que la clé, c'est Lévitique, chapitre 20, verset 26. « Soyez saints, car moi, le Seigneur, je suis saint. Je vous ai mis à part d'entre les peuples pour que vous soyez à moi. » La clé, c'est ça. Moi, le Seigneur, je suis saint, or je t'ai créé à ma ressemblance, donc il faut que tu sois saint, tout simplement. On va reprendre le projet originel. Dieu créa l'homme à l'image et à la ressemblance. Eh bien, il va falloir que tu sois à mon image et à ma ressemblance. Être bien éduqué selon Dieu, c'est ça. Tu vas te comporter saintement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire saint? Kadosh en hébreu, agios en grec. A, privatif, gios, ge, ou gaia, la terre. Littéralement, saint en grec, agios, ça veut dire séparé de la terre. Dans la notion de sainteté, vous avez d'abord la notion de séparation. Tu vas être séparé du diable. Tu vas être séparé de tout ce qui n'est pas saint, en fait. Tu vas être séparé de tout ce qui ne ressemble pas à Dieu. Notamment de l'idolâtrie. Et voilà pourquoi le peuple juif est si particulier. Dieu le sépare. Pédagogiquement, il commence comme ça. Il va y avoir une pédagogie divine pour séparer le peuple d'Israël de tous les autres peuples, pour qu'il ne se mêle pas à l'idolâtrie, qui est le grand péché de l'époque. Alors ça, c'est la clé de lecture. La sainteté implique une séparation, et par conséquent, tous les préceptes vont avoir pour but de séparer le peuple. On va en regarder un qui m'a toujours amusé, c'est les recettes de cuisine qui nous sont données au chapitre 11. Tout ce que le peuple peut manger ou pas manger. Ça, c'est cachère ou c'est pas cachère? Le Seigneur adressa la parole à Moïse et à Aaron et leur dit « Parlez aux fils d'Israël, parmi tous les animaux terrestres, voici ce que vous pouvez manger. Ceux qui ont le sabot fendu et qui ruminent, ceux-là, vous pouvez les manger. Parmi les ruminants et parmi les animaux ayant des sabots, vous ne devez pas manger celui-ci, le chameau, car il rumine. » Mais n'a pas de sabot. Pour vous, il est impur. Le daman, car il rumine, mais n'a pas de sabot. Pour vous, il est impur. Le lièvre, car il rumine, mais n'a pas de sabot. Pour vous, il est impur. Le porc, car il a le sabot fendu, mais ne rumine pas. Pour vous, il est impur. Alors vous dites, bon, on va pas manger de viande, ça va être plus simple. Ou alors les poissons. On va chercher du côté des poissons. Et Dieu dit, parmi tous les poissons aquatiques, voici ce que vous pouvez manger. Tout animal aquatique de mer ou de rivière qui a des nageoires et écailles, vous pouvez le manger, mais tous ceux qui n'ont pas de nageoires ni d'écailles, bestioles aquatiques, ou êtres vivants dans l'eau de mer ou en rivière, vous sont interdits, puis ça continue. Donc bref, on va arrêter aussi le poisson, ça va être plus simple. Alors, qu'est-ce qu'on va manger? Des oiseaux, peut-être? Oui, mais parmi les oiseaux, il y a ceux-ci que vous pouvez manger. Qui ont l'interdit, l'aigle, le gypaète, le milan, les différentes espèces de vautours, toutes ces espèces de corbeaux, l'autruche, la chouette, la mouette, les différentes espèces d'éperviers, le hibou, le cormoran, le chat-huant, l'effraie, la corneille, etc. Ok, basta, on arrête aussi les oiseaux. Alors peut-être les insectes, les crustacés. Je pourrais continuer, vous voyez, donc vous lisez ça, mais vous dites, mais c'est quoi ce truc? Puis après vous dites, mais en fait, comment je fais pour rencontrer des gens? Quand vous voulez avoir des amis, vous arrivez à Genève, vous êtes expat, vous voulez avoir des amis, on viendrait bien manger à la maison. C'est par le repas qu'on socialise, qu'on se fait des amis. Là, il leur donne un régime. Si la personne vous dit, oui, mais je ne peux pas manger ça, je suis vegan, Je crois qu'il n'y a pas de vegan ici. Mais, bon, on va te faire, je crois, une petite salade. Ah, je ne prends pas de salade non plus. À la fin, évidemment, il va falloir être avec un club de vegans qui ne prennent pas de salade. Vous voyez, c'est exactement ce que veut Dieu, en fait. Et vous allez manger entre vous, les gars. Vous n'allez pas vous lier aux autres peuples. Et donc ça donne une clé de lecture. Dans le Lévitique, vous avez plein de commandements parce qu'il s'agit que le peuple soit séparé pour être sanctifié. Donc ça, c'est le Lévitique. Soyez saints parce que je suis saint. Et remarquez que Jésus, il a adouci les choses, mais il dit quand même, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Donc il y a le principe de séparation qui demeure. Soyez saints parce que je suis saint, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Donc il n'a pas séparé ses disciples du monde, mais en même temps, il les a séparés. Vous n'êtes pas du monde. Donc vous devez accepter une différence. Sans différence, il n'y a pas de sainteté, semble-t-il. Alors bien sûr, les Israélites ne vont pas beaucoup apprécier le régime, et notamment le fait d'avoir à marcher 40 ans ensuite dans le désert pour intégrer la pédagogie divine. Donc là, vous entrez dans le livre des Nombres, c'est le livre des râleurs, quatrième livre du Pentateuque. Bémidbar, c'est dans le désert. La première parole, c'est Bémidbar, ça veut dire dans le désert. C'est pour ça qu'on pourrait dire c'est le livre du désert. Je crois qu'aujourd'hui, les Hébreux l'appellent, les Israéliens, les Juifs, pardon, l'appellent comme ça. Il est appelé le livre des Nombres parce que dès le départ, on a un dénombrement du peuple. Donc à cause de ça, comme il y a un dénombrement, on l'a appelé le livre des Nombres, mais je préfère dire le livre du désert. C'est le livre du peuple dans le désert du Sinaï, qui marche donc pendant ces 40 ans, et c'est l'histoire des épreuves, des échecs, des murmures d'Israël, 40 ans au désert, 40 ans de marche, 40 ans de murmures, 40 ans de chaleur, 40 ans de soif, 40 ans de défaillance, 40 ans de patience de Dieu aussi. Ce qui est étonnant, c'est que le désert du Sinaï n'est pas si grand que ça. On se demande comment ils ont pu rester autant de temps dans un si petit désert. 40 ans pour traverser, ils ont dû faire des cercles. Ils sont dans l'errance, manifestement, ils sont dans l'errance. Il suffisait de tracer une ligne droite, en 2 mois, ils y étaient. Hein. Ça reste mystérieux, énigmatique, le fait qu'ils soient restés 40 ans. Ils sont bêtes ou bien? Eh bien, en fait, réfléchissons à notre vie maintenant. Est-ce que ça ne fait pas 40 ans que j'entends les mêmes sermons? 40 ans que je suis chrétien? 40 ans que je fais des cercles? Est-ce que j'ai vraiment progressé? Est-ce que je suis vraiment entré dans la terre promise? Est-ce que je vis vraiment de la grâce? Ou est-ce que c'est toujours la même histoire? Eh bien... Le livre des Nombres, c'est pour nous faire comprendre que oui, c'est toujours la même histoire avec toi. Et on va faire des cercles ensemble. Et tant que tu n'y es pas, tant que tu n'as pas encore intégré les trucs, on va revenir à chaque fois aux mêmes choses. Tu murmures, tu râles. Donc on va être obligé de recommencer la leçon au départ. C'est le livre de la non-appropriation des dons de Dieu. Donc c'est pour ça que c'est un livre un petit peu pénible, mais en même temps, on s'y retrouve pas mal. C'est le livre de l'inconséquence du peuple à la nucrède, et le livre aussi de la patience de Dieu. Comme Dieu est patient avec nous. On a entendu 1000 fois les choses. On décide, et puis après on laisse tomber. Dieu est patient avec nous. Ça, c'est le livre des Nombres. Vient ensuite le 5e livre du Pentateuque, le Deutéronome. Deutéronomion en grec, ça veut dire la seconde loi. Nomos, c'est la loi. Deutéro, ça veut dire deux. Deuxième loi. Ah, c'est bizarre, comme si la loi avait été donnée 2 fois. Ben, c'est le cas. C'est un grand discours de Moïse qui redonne la loi. Jésus y fait allusion d'ailleurs. Pourquoi il redonne la loi 2 fois? La deuxième fois, il adoucit un peu. La deuxième loi est plus douce que la première, moins sévère. Et Jésus fait allusion à ça. Vous savez, quand on lui dit « Est-il permis de répudier sa femme comme Moïse nous l'a permis ?» Et Jésus dit « Moïse vous l'a permis à cause de la dureté de votre cœur, mais au commencement, il n'en était pas ainsi. » Donc, à cause de la dureté du cœur de l'homme, on va adoucir un peu la loi. Comme quand on dit « Oui, allez, on va le tolérer. » C'est pas ce qu'on voudrait, mais on va le tolérer. Et la différence entre un commandement et une tolérance, c'est pas exactement la même chose. Dieu tolère des choses, et puis Dieu veut des choses. Et donc le Deutéronome, c'est un peu un adoucissement de la loi, une sorte de tolérance, parce que vraiment, c'est difficile pour nous, et on a besoin que les choses soient un peu adoucies. Il y a donc comme un aménagement de la loi à cause de la dureté du cœur du peuple hébreu ici. Et puis surtout, la loi a été donnée il y a 40 ans. Il y a toute une génération qui est déjà morte. Ils sont morts au désert la plupart. Là, c'est leurs enfants. Donc le Deutéronome, c'est Moïse qui s'adresse aux enfants, à la nouvelle génération. Et il leur dit maintenant, est-ce que vous êtes prêts ? Je vous redonne la loi en un peu plus soft. Je vous redonne la loi. Est-ce que vous êtes prêts maintenant à entrer dans la terre promise ? Donc c'est le peuple sur le point d'entrer dans la terre promise à qui il faut des règles de vie, des lois de vie. Tu vas entrer maintenant dans la terre promise, tu auras ces lois de vie à mettre en pratique, alors tu vas faire fructifier cette terre. Voici la dernière parole du livre. Le Seigneur lui dit, il parle à Moïse, « Ce pays que tu vois, j'ai juré à Abraham, à Isaac et à Jacob de le donner à leur descendance. » Je te le fais voir, mais tu n'y entreras pas. Et pour certaines raisons, Moïse n'entre pas dans la terre promise. On essaiera de comprendre pourquoi. Moïse, le serviteur du Seigneur, mourut là, au pays de Moab, selon la parole du Seigneur. On l'enterra dans la vallée qui est en face de Beth-Péor, au pays de Moab. Mais aujourd'hui encore, personne ne sait où se trouve son tombeau. Il y a une légende comme quoi Moïse aurait eu une assomption. En tout cas, c'est vrai que vous n'avez nulle part dans le monde le tombeau de Moïse. Pourtant, s'il y a quelqu'un dont on devrait connaître le tombeau, c'est bien lui. On n'a pas le tombeau de Moïse. Moïse avait 120 ans quand il mourut. Sa vue n'avait pas baissé, sa vitalité n'avait pas diminué. Il ne s'est plus levé en Israël un prophète comme Moïse, lui que le Seigneur rencontrait face à face. Alors Moïse n'entre pas, pourquoi ? Oui, aux eaux de Meriba, il a frappé le bâton deux fois sur la rochelle, on ne voit pas bien le problème. Je pense que parce que Moïse, c'est l'homme de la loi. Et la terre promise, c'est le lieu de la grâce, symboliquement. Si je relis ça à partir du Nouveau Testament, le prologue de Saint Jean nous dit « Moïse nous a donné la loi, mais Jésus nous a donné la grâce et la vérité. » Et en fait, on n'entre pas dans le pays de la grâce par la loi. La loi est nécessaire, elle est notre pédagogue, mais elle n'est pas ce qui nous fait entrer dans le salut. Ça ne suffit pas. Il va falloir un sauveur. Et c'est pour ça qu'après Moïse, il y a quelqu'un qui s'appelle tout simplement Jésus. Josué, c'est Jésus. C'est le même mot. Hein. Dans la traduction grecque de la Bible, la Septante, vous entrez après le livre de Deutéronome, le livre suivant, c'est le livre de Jésus. Donc nous, on dit Josué. Mais c'est le même mot en hébreu, c'est Yehoshua. Donc Yeho, ça veut dire Dieu. Yeho, ça veut dire Dieu, Yahweh. Et Shua, c'est sauve, Dieu sauve. C'est le nom de Josué, qu'on verra la prochaine fois. Et c'est déjà la préfiguration de Jésus. C'est Jésus qui nous fait entrer dans la terre promise. C'est Jésus qui nous fait entrer dans le salut. C'est Jésus qui nous fait entrer dans la grâce. Et Josué en est une préfiguration. Alors je conclue, vous voyez qu'on a cinq moments, et ces cinq livres me semblent un petit peu la maquette de toute la Bible. Premier moment, dans la Genèse, on découvre notre besoin confus de Dieu. Sans Dieu, on est foutu, ça se termine en Égypte, dans un cercueil. Deuxième moment, je me sens esclave, et j'ai besoin d'un libérateur, quelqu'un qui va vraiment faire de moi une personne libre. Et là, c'est le livre de l'Exode. Troisième moment, j'ai besoin aussi d'être éduqué. J'ai conscience que j'ai besoin d'être enseigné, que ça ne suffit pas, je ne sais pas quoi faire de ma liberté, comment je me comporte avec Dieu. Et ça, c'est le Lévitique. Mais ensuite, ça prend du temps pour intégrer la leçon. Ça va prendre du temps, ma vie, c'est un peu toujours la même chose. Et là, il me faut un livre qui m'explique ça. C'est le livre des nombres. Le livre des nombres qui explique pourquoi je suis à la nucrète, pourquoi j'ai la nucrète, pourquoi je me bats avec Dieu tout le temps, pourquoi je râle. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, à part des cercles ? Il est en train de me conduire en m'acceptant tel que je suis patiemment pour m'emmener dans la terre promise. Et au moment où enfin je baisse les armes, que je dis « Ok Seigneur, tu m'as vaincu, maintenant je suis prêt ». Alors il me redonne sa loi, il me dit « Voilà des lois de vie pour toi, entrons ensemble dans la terre promise. » Alors je me demande si ces cinq éléments, le besoin de Dieu, la libération, la formation, l'échec, l'expérience de l'échec et enfin la docilité à Dieu, sont pas finalement cinq éléments fondamentaux de notre vie spirituelle. Ça c'est une question que vous pouvez peut-être vous poser dans la continuation de ce topo. Est-ce que ces cinq éléments ne sont pas structurants de notre vie en fait? Est-ce qu'on n'a pas là les cinq piliers de la vie spirituelle? En tout cas, il y a quelque chose à réfléchir. Pourquoi pas à deux? Pourquoi cinq? Pourquoi cette structure-là? Parce qu'on a une tête, deux bras, deux jambes. C'est quoi le symbole du cinq? Je voulais juste avec la question. Eh bien, bonne discussion.